Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Avec à la une la sécurité en Afrique de l'Ouest examinée par le Conseil de sécurité. Le fléau de la corruption à l'agenda d'une importante conférence de l'ONU organisée cette semaine à Abu Dhabi. Autre préoccupation, l'obésité qui touche plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Et puis pour le dossier, direction Genève où se tient durant 3 jours le premier forum mondial des réfugiés. Le Conseil de sécurité a fait le point ce lundi sur la situation en Afrique de l'Ouest et notamment les violences intercommunautaires et l'extrémisme violent. Le représentant permanent de la Côte d'Ivoire, Léon Kakou Adom, au nom des pays africains élus au Conseil de sécurité, a estimé que la société civile et les médias doivent jouer un rôle déterminant dans la prévention des violences intercommunautaires et de l'extrémisme.
Le caractère polymorphe de la société civile lui confère l'avantage de réunir à la fois les organisations de la société civile, mais aussi les leaders des communautés, les femmes et les jeunes. La société civile apparaît ainsi comme le creuset où peuvent s'élaborer des solutions consensuelles aux défis sécuritaires et sociaux auxquels les États et les communautés locales sont confrontés. Pour leur part, les médias, notamment les réseaux sociaux et les radios communautaires, sont indispensables à l'éducation et à la sensibilisation contre toutes les formes de violence, ainsi qu'à la diffusion de messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Ils sont également des outils de communication qui doivent permettre de battre en brèche l'idéologie et la rhétorique radicale des groupes terroristes. En somme, pouvoirs publics, sociétés civiles et communautés locales peuvent, par la vertu du dialogue et des initiatives concertées d'extension des tensions communautaires, œuvrer à une appropriation locale forte de la lutte contre les violences intercommunautaires et l'extrémisme violent.
La Convention des Nations Unies contre la corruption a ouvert ce lundi ses travaux à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Pour l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et la corruption, cette conférence doit permettre de dégager de nouvelles approches, mais aussi de trouver des solutions innovantes pour combattre la corruption qui menace tous les pays. John Brandolino est directeur de la division des traités à l'ONUDC. Il explique pourquoi la lutte contre la corruption est l'affaire de tous.
Face à la corruption, il est très facile de tomber dans l'accusation. Je ne pense pas que la faute repose uniquement sur les gens qui doivent payer. Je ne peux pas imaginer un seul instant être dans la peau d'une personne confrontée à un membre de sa famille malade et pour qui il s'agit d'une question de vie ou de mort de corrompre quelqu'un. Et c'est une situation terriblement tragique. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas combattre la corruption efficacement, durablement, dans son ensemble, à moins que tout le monde soit impliqué. À moins qu'il y ait une action du gouvernement pour y mettre fin, lorsque les gens s'élèvent pour dire « je n'ai pas besoin d'accepter cela », ce n'est pas comme cela que cela doit être et nous allons parler, surveiller ce qui se passe et dénoncer. Nous avons besoin que le secteur privé, les entreprises, adoptent de bonnes pratiques et fassent les bons choix. Et je pense que l'éducation a une grande importance, pas seulement éduquer sur comment traiter la corruption, mais faire en sorte que les jeunes grandissent en sachant prendre les bonnes décisions et déterminer le chemin qu'ils veulent emprunter, en ne facilitant pas la corruption qui facilite tant de maux dans nos sociétés.
Et puis, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié dans la revue The Lancet, près de 2,3 milliards d'enfants et d'adultes sont en surpoids et plus de 150 millions d'enfants ont un retard de croissance. Ainsi, alors que l'obésité et la sous-nutrition vont désormais de pair, l'OMS appelle à changer les régimes et les systèmes alimentaires. On écoute le docteur Francesco Branca, il est directeur du département nutrition pour la santé et le développement de l'OMS.
Il y a un lien biologique entre les deux. Un enfant qui est né avec un bas poids, un enfant qui développe une malnutrition dans les premiers mois de vie, et un enfant qui n'est pas capable d'utiliser les aliments qui sont dans le système alimentaire, qui sont souvent des aliments très riches en énergie, très riches en graisse. Et donc, ils sont des enfants qui développent plus facilement l'obésité ou les maladies non transmissibles liées à l'alimentation quand ils sont des adolescents ou des adultes. Et en même temps, on a des causes communes qui sont le système alimentaire qui ne donne pas la diète appropriée, une diète saine à tout le monde, et donc il n'offre pas des aliments qui contiennent de bonnes nutritions, de bonnes protéines, vitamines et minérales, mais au contraire, il offre des aliments qui sont pas chers, pas du tout chers, et sont facilement accessibles à tout le monde, qui sont hauts en graisse, sucre et sel. Donc le système alimentaire est un système alimentaire qui ne donne pas la nutrition appropriée pour les enfants et peut causer les deux problèmes en même temps.
Retour sur l'ouverture à Genève ce lundi du premier forum mondial sur les réfugiés. Un forum majeur, au dire de Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint la porte-parole du HCR, Cécile Pouilly.
C'est la première fois qu'un tel forum est organisé. L'enjeu est majeur car le nombre de déplacés dans le monde s'élève à 70 millions. C'est un chiffre record dont 25 millions sont des réfugiés. Et il y a donc un besoin phénoménal de mieux travailler ensemble, d'afficher plus de solidarité et d'apprendre aussi des bonnes pratiques qui ont lieu dans différents pays. Donc c'est vraiment une occasion unique de se rencontrer, de discuter de la manière pour la décennie à venir de mettre à profit l'expérience acquise et de mieux aider les réfugiés, mais aussi les communautés qui les accueillent.
La conférence a débuté ce lundi matin au Palais des Nations, mais quelles sont les dernières infos que vous avez au sujet de la participation des chefs d'État et de gouvernement ?
Nous avons plus de 2000 participants. Aujourd'hui, le forum se concentre sur la contribution du secteur privé en particulier. Il y a déjà beaucoup de réunions qui sont prévues. On attend effectivement de nombreux chefs d'État, de nombreux ministres qui vont principalement arriver demain pour les débats dans la matinée. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est sûr que c'est la première fois qu'on a un événement de cette taille et on se réjouit de voir autant de personnes se rallier autour de la cause des réfugiés et reconnaître donc l'importance de mieux travailler ensemble pour trouver des solutions.
Une réunion à la sortie d'une décennie marquée par des déplacements énormes dans le monde. Finalement, quel est l'objectif de cette conférence et comment le HCR entend faire évoluer la réponse mondiale face aux crises des réfugiés dans le monde ?
Je pense que la dernière décennie a clairement montré qu'aucun État ne peut gérer seul ce genre de situation. On voit une multiplication des conflits, on voit aussi une baisse de possibilités de retour des gens parce que les conflits perdurent, on ne trouve pas de solution politique. D'où la nécessité de coordonner les efforts, de mieux soutenir les pays et les communautés qui accueillent les réfugiés et aussi de donner aux réfugiés davantage de possibilités. C'est pour ça qu'on va se concentrer au cours des jours à venir sur des sujets très concrets, tels que l'éducation, la possibilité pour les réfugiés de travailler, donc de contribuer aux économies locales et au commerce international, à la mise en place d'infrastructures pour les accueillir, à permettre aux réfugiés d'accéder à l'électricité. À peine 10% des réfugiés dans le monde ont un accès fiable à l'électricité. Et aussi, on va beaucoup parler de solutions. Quelles sont les solutions pour permettre un retour digne et sécurisé dans les pays d'origine, lorsque les conditions donc le permettent, et aussi est-ce qu'on peut offrir plus de places de réinstallation ou de moyens complémentaires pour que les gens quittent les pays d'asile dans lesquels ils ne sont pas en sécurité. Donc on cherche vraiment à rallier toutes les bonnes volontés, donc on espère des contributions aussi extrêmement concrètes, que ce soit en termes financiers, techniques, matériels, des changements législatifs ou davantage de places de réinstallation.
Est-ce une façon pour le pacte de mieux appréhender la question des réfugiés et surtout améliorer concrètement la vie de ces personnes déracinées ?
Mais absolument, et d'ailleurs il y a de nombreux réfugiés qui seront présents lors du forum pour parler de leur vie, de leur expérience de déracinement, comment ils ont surmonté les obstacles devant eux, comment ils ont rebondi, comment ils peuvent contribuer. Et ils ont tous des idées, ayant eux-mêmes vécu dans leur propre chair cette tragédie de l'exil, pour faire avancer le monde et pour aller de l'avant avec des solutions très concrètes et très pratiques. Donc je pense qu'on a aussi beaucoup envie d'entendre de ces réfugiés, de leur bouche, les propositions qu'ils ont à faire, sachant que, bien entendu, au-delà des réfugiés qui vont participer au forum, il y a eu un large processus consultatif qui a eu lieu depuis des mois pour réunir les bonnes idées qui émanent des communautés de réfugiés.
Est-ce à dire que la voix de ces réfugiés compte et que ce seront des acteurs importants lors de ce pacte mondial ?
Absolument, et je pense que toutes les organisations humanitaires, dont bien sûr le HCR qui travaille avec les réfugiés, ont changé et prennent en compte la voix des réfugiés. C'est fondamental, on ne peut pas mettre en place des programmes à leur intention sans prendre en compte leur opinion. C'est une question d'efficacité tout simplement. Et puis, ils sont les mieux placés pour savoir ce que représentent les difficultés de l'exil et comment les surmonter.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.